20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 3 juin 2012. Les Britanniques célèbrent le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. La souveraine a passé 60 ans sur le trône. Nous sommes le 3 juin 2012. Le spectacle est grandiose sur la Tamise. À Londres, 1000 bateaux remontent le fleuve pour la plus grande parade nautique organisée par la monarchie depuis plus de 3 siècles. Aujourd'hui, et pendant 4 jours, la reine Elisabeth II célèbre ses 60 ans de règne avec ses sujets aimants et enthousiastes que la pluie n'est pas parvenue à décourager. L'événement est historique. C'est seulement la deuxième fois en 1000 ans qu'un souverain britannique passe autant de temps sur le trône. La dernière fois, c'était l'impératrice Victoria en 1897. Sur la barge royale rouge et or qui ouvre la voie au son des cloches, la reine, vêtue de blanc, se tient debout aux côtés du prince Philippe, son époux, qui sera hospitalisé demain pour une infection à la vessie. Sont aussi présents Charles et Camilla, William et Kate, fraîchement mariés depuis un an, et Harry, encore célibataire. Debout pendant 4 heures, la reine, âgée de 86 ans, salue la foule. Et pourtant, si elle est rompue à l'exercice des événements en tout genre, ce type de commémoration ne la remplit pas de joie. Elle se refusera d'ailleurs à célébrer son jubilé de saphir dans 5 ans. Car ce que l'on oublie alors, c'est que l'anniversaire du règne de Sa Majesté est aussi, et surtout, celui de la mort précoce de son père adoré, le roi George VI. Elle et Philippe étaient en tournée au Kenya en train d'observer les animaux sauvages quand ils ont appris la terrible nouvelle. À leur retour en Angleterre, le poids des responsabilités s'était abattu sur ses jeunes épaules jusqu'à ce jour. Le 2 juin 1953, le couronnement d'Elisabeth II sera diffusé en direct à la télévision. Depuis, la reine semble avoir tout connu, des heures de gloire à celles des drames, de son pays à sa famille, aucun tourment ne lui sera épargné. Et surtout pas en 92, qu'elle qualifiera elle-même d'anus horribilis entre les divorces successifs de ses enfants et les flammes qui ravageront Windsor. Surtout, en 60 ans de règne, Elisabeth II aura vu défiler sous ses yeux l'histoire et ses plus illustres acteurs. Elle a eu 13 premiers ministres, de Winston Churchill à David Cameron, et rencontré tous les présidents du monde. Avec son attitude un peu froide et distante, elle s'impose dans un monde d'hommes qui s'inclinent tous devant Sa Majesté et ses chapeaux. Elle en posséderait plus de 5000, chapeaux qu'elle préfère à la couronne. Et comme on la comprend, aussi volumineux soient-ils parfois, ils seront toujours plus légers que The Crown, qui pèse 3 kilos et qui se compose de 2901 pierres précieuses et de 273 perles. Retour ce soir sur le jubilé de diamant d'Elisabeth II et sur un règne exceptionnel, de par sa longévité mais aussi de par sa contrition. Car Sa Majesté l'affirmera elle-même, son record sur le trône britannique n'a pas été une chose à laquelle elle avait aspiré. Dans un instant, Thomas Pernette, journaliste spécialiste des têtes couronnées, sera notre invité jusqu'à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir et jusqu'à 21h, nous célébrons donc le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Nous sommes le 3 juin 2012 et le crachin britannique n'a pas raison de la joie d'un peuple tout entier qui fête les 60 ans de règne de sa souveraine.
Vive la reine !
Vive la reine ! Et vive la cheminée !
Je suis fière d'être anglaise.
J'adore la reine d'Angleterre. J'adore la pluie aussi. Parce que je trouve que seuls les Anglais sont capables d'avoir une ambiance pareille, de faire de telles manifestations et de montrer leur attachement à leur reine.
Thomas Pernette, bonsoir.
Bonsoir, Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des têtes couronnées et vous êtes auteur d'un livre, alors que j'adore, qui est sorti aujourd'hui. Il est tout beau, il est tout chaud, comme un beau pain qui donne envie. Elisabeth de Les Chapeaux de la Couronne, c'est aux éditions EPA et je le conseille à tous ceux qui nous écoutent.
Merci,
voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. On vient de l'entendre d'ailleurs, les réactions des Britanniques, ce fameux 3 juin 2012, et même de certains Français qui sont allés en Angleterre pour assister à cet événement. Et quel événement ? Racontez-nous cette journée et le programme de ces 4 jours.
Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est d'entendre « J'adore la pluie ». Encore heureux qu'ils aimaient la pluie parce que ce 3 juin 2012, il fait 12 degrés, il pleut. Et on assiste à cette invincible armada, c'est-à-dire cette grande croisière. La reine et toute la famille royale ont pris place sur, comment dire, un bateau de croisière, redécoré comme un canot au XVIIIe siècle. On pourrait le voir sur le Grand Canal de Versailles ou à Venise en 1750. Et autour de ça, qui descend la Tamise, vous avez 1000 embarcations. Alors vous avez tout, hein, des kayaks, des pirogues maoris, vraiment tout et n'importe quoi. En fait, c'est une flottille de carnaval. Mais c'est vrai, c'est pas le seul événement. C'est un peu, on va dire, le grand moment. Mais il y a eu pendant 4 jours un grand concert devant Buckingham, des pique-niques dans Londres. Bref. Toute la Grande-Bretagne et tout le Commonwealth célèbrent les 60 ans de règne de leur souveraine Elisabeth II.
Voilà, c'est ce qu'il faut dire en fait, parce que je parle de l'Angleterre, mais en fait c'est tout le Commonwealth, parce qu'effectivement, elle règne pas simplement sur cette île britannique, mais elle règne bien au-delà de ce que l'on peut...
Bien sûr, 16 royaumes. Vous savez, quand Elisabeth II devient reine, elle est la reine de 32 royaumes. Alors bien sûr, avec les indépendances, certains ont quitté, on va dire, la couronne. Mais elle est encore la reine d'Australie, la reine du Canada, la reine de Nouvelle-Zélande, la reine des îles Salomon. Alors c'est vrai qu'au Canada ou en Australie, c'est pas la même ferveur néanmoins. Mais dans tout le Commonwealth, elle est aussi la chef du Commonwealth, des pays du Commonwealth. Et on célèbre cette reine, ce monument vivant qu'est Elisabeth II.
Et je le disais il y a un instant, c'est pas un jour facile pour elle en fait, en réalité.
C'est certainement un jour un petit peu ambigu parce que bien sûr c'est la célébration d'un règne, mais la célébration d'un règne c'est aussi le souvenir de la perte de son père, c'est-à-dire du monarque précédent. George VI, son père, s'est éteint le 6 février 52. La Grande-Bretagne, l'Empire, on disait à l'époque, a perdu son souverain, mais la reine a perdu son père et son père bien-aimé.
Et qu'on a tendance évidemment à oublier dans ces jours de joie et de célébration. La famille royale, elle entoure la souveraine donc pendant toutes ces festivités, notamment ce fameux 3 juin 2012. Elle n'est d'ailleurs plus la même aujourd'hui, cette famille royale. Parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'effectivement, Harry n'était pas marié, le prince Philippe était là.
Voilà, oui, mais il y a quand même des indispensables. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a... bien sûr, le prince Charles, Camilla, qui depuis n'est plus la méchante sorcière et la maîtresse, qui est devenue la duchesse de Cornouailles et qui aujourd'hui est un des piliers de la monarchie. Et puis il y a bien sûr William et Kate, l'avenir.
Fraîchement mariés.
Populaire, très populaire et toujours aussi populaire aujourd'hui.
Alors parmi les piliers, il y a évidemment son fils, le prince Charles, qui prend la parole et qui rend hommage à la reine, non pas à sa mère, mais à la reine.
Votre Majesté, un jubilé de diamants est un événement unique et spécial. Certains d'entre nous ont eu la joie de pouvoir célébrer 3 jubilés avec vous. Et j'ai les médailles pour le prouver. En tant que nation, c'est l'opportunité de vous remercier, vous et mon père, d'avoir toujours été présents pour nous, de nous avoir inspirés avec votre devoir et votre service désintéressé, et de nous rendre fiers d'être britanniques.
Qu'est-ce qui vous fait rire en écoutant ça, Thomas Pernet ?
Les médailles, je trouve ça très drôle. C'est vrai qu'à chaque jubilé, il y a une médaille commémorative. Je trouve assez drôle de se dire que c'est peut-être plus facile de gagner la médaille du jubilé qu'une médaille d'or, sachant qu'on est une année olympique.
Oui,
en
2012. Plus, on y reviendra évidemment. Oui, donc c'est une note d'humour très british en fait du prince Charles.
Oui, c'est un hommage. C'est un hommage en effet, c'est un hommage à la longévité de sa mère. Et puis, vous l'avez vu, le ton est quand même solennel. Au chef d'État.
Oui, alors, le ton est solennel, mais Charles se lâche quand même avec un petit... Hip hip. Hip hip. Et dites donc, là, on se lâche un peu, là.
On est moins. Windsor, hein. On se marre,
c'est la gaudriole.
Non, mais là, il y a quand même quelque chose de... Enfin, c'est très marrant. Il y a quelque chose d'assez touchant parce que c'est un moment solennel, mais qui, nous, a posteriori, nous donne envie de sourire par certains aspects.
Oui, ça reste un moment aussi d'affection, mais pas simplement...
Mais c'est un spectacle, je trouve, la monarchie.
C'est un spectacle, bien sûr, vous avez raison. C'est un spectacle à la fois que certains, ses opposants, qualifieraient de folklorique, de dépassé. Et puis, pour beaucoup de Britanniques, et de plus en plus, puisque aujourd'hui, la reine est très populaire et la monarchie l'est avec elle. C'est un spectacle important, institutionnel. C'est pas comme Trooping the Colour, qui est un peu leur fête nationale et qui est aussi l'anniversaire officiel de la reine, mais un petit peu. C'est nous, on fera un bicentenaire de la Révolution française. Là, c'est l'anti-bicentenaire, puisqu'on célèbre la monarque. Mais malgré tout, c'est un grand moment de communion.
On est ensemble jusqu'à 21h. Thomas Pernette, merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra sur le couronnement de la reine Elisabeth II. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Jour J, 60 ans de règne. La reine Elisabeth II les célèbre le 3 juin 2012 en compagnie de la famille royale et de ses sujets britanniques. 4 jours de festivités à travers tout le pays et tout le Commonwealth. Et à la gloire de la souveraine, l'occasion de se retourner sur une vie hors du commun. Thomas Pernette, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Oui, c'est une vie hors du commun. C'est-à-dire qu'en préparant cette émission, je me suis dit, oui, ça n'est pas simplement... Pardon, mais un jubilé, c'est quelque part aussi un hommage à un destin absolument incroyable.
Et un hommage d'autant plus beau qu'il est du vivant de la personne.
Oui.
Et bien sûr, on est obligé de se dire que Elisabeth II, en fait, c'est l'arrière-grand-mère du monde. On disait la reine Victoria, elle est la grand-mère de l'Europe. Elisabeth II, quelle femme est plus célèbre ? Et même quelle femme ou quel homme, quel personnage vivant est plus célèbre qu'Elisabeth II dans le monde ? Et on a envie, presque avec eux, en écoutant les archives notamment que vous nous avez fait écouter, de se remémorer ça. On a tous des souvenirs avec Elisabeth II, non ? Je ne sais pas, vous n'avez pas des souvenirs ?
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Moi, la première fois que je me souviens d'Elisabeth II, c'était devant mon téléviseur en 1994, quand elle a inauguré le tunnel sous la Manche avec Mitterrand.
Ouais,
c'est mon premier souvenir.
Je suis sûr que chacun... On va bientôt, d'ailleurs.
Eh bien, très bien, il faut écouter RTL et écouter Jour J. Mais je pense que chacun de nous a un souvenir avec Elisabeth II. Et bien sûr, quand on regarde les décennies d'histoire, le monde a changé, et elle, un peu, bien sûr. Mais pas
tant que ça, mais pas tant que ça. Et surtout, elle a épousé toutes les époques, et on y reviendra dans un instant. Parmi les moments inoubliables du règne d'Elisabeth II, il y a son couronnement. C'est le 2 juin 1953, donc quelques mois après la mort de son père, le roi George VI. Un couronnement qui se fait devant les caméras. En fait, c'est une première qu'elle a concédée au prince Philippe, c'est ça ?
Tout à fait. Contre l'avis du premier ministre de l'époque, Winston Churchill, qui était contre, le prince Philippe, qui est donc son époux, qui est un homme disparu malheureusement, mais qui était un visionnaire, qui était quelqu'un de très moderne, très compliqué, l'avait conseillé de faire diffuser dans le monde ce couronnement à la télévision pour la première fois. C'est un succès planétaire. Et c'est drôle, elle a accepté elle-même de commenter un peu plus tard ces images, enfin un peu plus tard, il y a quelques années seulement, à la BBC. Vous savez, Elisabeth II n'a jamais donné d'interview de sa vie et n'a jamais donné d'interview ni à la radio ni à la télévision. Et elle a accepté avec un journaliste de commenter ces images. Et c'est très émouvant de la voir aujourd'hui, à plus de 90 ans, redécouvrir. Elle avait 26 ans à l'époque.
Elle avait 26 ans, elle était belle, elle était glamour, on y reviendra, et elle était couronnée.
Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit courte ou longue, sera consacrée à votre service et au service de la grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.
Une reine qui, effectivement, à l'âge de 26 ans, dit que ma vie soit longue ou courte. Voilà, elle approche les 96 ans, donc de ce côté-là, c'est réussi. Et qui déjà a pris conscience de la lourdeur, du poids, je dirais aussi, de son rôle à la mort de son père et de son dévouement à sa nation tout entière.
Je pense même qu'il y avait déjà ce dévouement chevillé au corps dès son enfance. C'est-à-dire que normalement, Elisabeth II n'aurait pas dû être reine. Mmh. Parce que son père n'aurait pas dû être roi. Et finalement,
il faut préciser en fait. Son père est devenu roi à l'abdication de son propre frère.
Édouard VIII.
Édouard VIII qui lui avait envie de vivre librement ses amours avec Wallis Simpson.
Et à 10 ans, en 36, elle devient princesse héritière. Et à partir de ce moment-là, elle a conscience du poids de l'histoire. Mais la vérité, c'est que Elisabeth... on va dire encore Elisabeth, jeune princesse héritière, et le prince Philippe espéraient avoir 10 ans, 20 ans de vie. Enfin, ils avaient une famille avec 2 jeunes enfants. À l'époque, au moment où George VI meurt, le prince Philippe est toujours militaire, il est marin de la Royal Navy, et ils sont à Malte. Elisabeth II, elle va regretter cette vie parce qu'à Malte, elle était la femme d'un officier. Elle pouvait aller chez le coiffeur, elle pouvait aller à des
réceptions. Vivre normalement, quoi.
Voilà. À partir du moment où Georges VI rend son dernier souffle, il y a deux personnes. Il y a la femme privée, mais il y a surtout l'institution. Elle est la couronne qu'elle porte. Mm. Et ça, on a du mal à imaginer la lourdeur, le sacrifice quotidien que cela représente. Moi, j'entends des gens qui disent « Oh là là, 96 ans, en même temps, elle n'a jamais travaillé de sa vie. » C'est pas vrai. J'aimerais bien que ces gens fassent le dixième de ce qu'elle a fait. Il faut se rendre compte des journées d'un souverain, des responsabilités d'un souverain dans un monde si changeant qu'ont été les années 50, 60, 70, et si jeune, si jeune.
Alors, si jeune, et en fait, elle tape un peu dans l'œil et dans le cœur du monde entier, parce qu'elle est belle, elle est jeune, elle est glamour, et on sent qu'elle a déjà, quelque part, endossé ce costume.
Oui, c'est cette icône glamour. Alors, surtout, en effet, dans les années 50.
Elle était canon. Hein.
Elle était très, très belle, très élégante. 6 mois après le couronnement, fin 53, elle part pour sa première tournée des pays du Commonwealth, c'est-à-dire qu'elle va aller en Océanie notamment. C'est la première fois que les Australiens découvriront leur souverain, en l'état leur souveraine, puisque jusque-là on envoyait en Australie un frère cadet, on n'envoyait jamais le roi ou la reine. Elle arrive.
Un vulgaire cousin.
Oui, un cousin, un sixième ou septième dans l'ordre de succession au trône, pas le gros poisson.
Et elle
arrive
fait,
en février 54, il faut savoir, il y a 1 million de personnes dans Sydney. Sydney, à l'époque, c'est moins de 2 millions d'habitants. Il y a 1 million de personnes dans les rues pour découvrir Elisabeth II. Même, moi, je me suis amusé dans ce livre à aller voir la presse féminine, à aller voir les chapeaux qu'elle portait. Mais c'est-à-dire que les Australiennes, elles n'attendent pas de découvrir la reine en février 54 en Australie à Sydney. Déjà aux Bermudes, 3 mois avant, dans la première étape, on s'arrachait les magazines qui disaient « la reine était en turquoise, la reine portait tel chapeau ». C'est un symbole
une
de glamour.
Une icône de mode, en fait.
Une icône de mode, oui. Alors, ce n'est pas une star hollywoodienne, malgré tout, mais c'est une icône de mode qui fait rêver le monde entier.
On se retrouve dans un instant. On parle des chapeaux de la couronne. On va parler du poids de la couronne, pas simplement d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue réel. Avec vous, Thomas Pernette. On va revenir évidemment sur ces 60 ans de règne que l'on célébrait en 2012, avec des décennies particulières et peut-être notamment la décennie 90, car là, on a vraiment le sentiment que une certaine obscurité est tombée sur la monarchie britannique. À tout de suite.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui évoque ce soir un règne hors du commun. Elle célébrera l'année prochaine son jubilé de platine, 70 ans sur le trône d'Angleterre. Mais en 2012, c'est celui de diamant qu'Elisabeth II fêtait avec ses sujets. Et nous retraçons sa vie ce soir avec vous, Thomas Pernette. Jour J, aujourd'hui, c'est aussi celui où je vole ce livre qui sort. Aujourd'hui, Elisabeth II, les chapeaux de la couronne aux éditions EPA. Et d'ailleurs, hein, sur la couverture, c'est fou parce qu'on pourrait se dire, Thomas Pernette, que vous-même, vous avez retracé la vie de la reine Elisabeth.
C'est un peu le pari avec l'éditeur et avec l'illustrateur Jason Reich, c'est de raconter ce règne incroyable.
À travers les chapeaux.
À travers les chapeaux.
Si la reine, elle a été adorée tout de suite par ses sujets, par le monde entier, vous nous l'avez expliqué, une reine glamour qui a surfé, façon de parler, parce qu'on n'imagine pas vraiment Elisabeth II surfer, mais enfin en tout cas qui a surfé sur les époques, qui a traversé les époques avec une certaine grâce, avec parfois des maladresses, on en a déjà parlé dans un jour J précédent. Néanmoins, c'est une femme qui a toujours traversé son époque sans grands accrocs. Et pourtant, les années 90 représentent des années difficiles. Pourquoi ?
Alors, il y a eu des années difficiles dans les années 70, notamment quand le Royaume-Uni connaît la crise économique. Il y a quand même, tout n'a pas été un long chemin de rose.
Mais je parle de son image.
C'est vrai que les années 90 sont certainement les pires. Ce sont les années où les Windsor sont les plus impopulaires. Déjà, il y a une forme de froideur. C'est-à-dire aujourd'hui, le sens du devoir qu'on voit aujourd'hui et qu'on admire aussi dans les années 50. Il y a quand même eu un moment dans les années 90 où on s'est dit... cette personne qui ne sourit pas et qui ne montre pas beaucoup d'affection à ses enfants. Cette femme toujours froide, toujours dans la réserve. Face à d'autres figures bien plus populaires et bien plus proches du peuple, et on pense tous à une certaine Diana, c'est sûr que par contraste, la reine n'était peut-être pas la plus avenante.
Donc elle était en perte de popularité.
Les années 90.
Elle avait une image un peu ringarde.
Totalement.
Voilà, elle n'était pas vraiment dans le coup. Elle avait été éclipsée par des visages plus jeunes, plus avenants, vous l'avez dit, comme Diana, peut-être plus libre aussi. Et puis 92, c'est une année mais vraiment noire. Et pour une fois, la reine Elisabeth sort de son traditionnel silence.
1992 n'est pas une année qui me rappellera une grande allégresse. Pour reprendre les termes d'un de mes correspondants les plus sympathiques, elle s'est révélée être une anus horribilis.
Ça n'était pas une grande allégresse. Thomas Pernet, c'est rare qu'elle s'épanche, la reine. Hein.
Oui, alors là, c'est un discours...
Elle l'a fait, là, cette année-là.
Terrible, et c'est une année terrible. On est en 92, quand elle prononce ce discours. On est 4 jours après l'incendie du château de Windsor. Mais le terrible incendie du château Windsor, qui a brûlé pendant 15 heures, qui a coûté 60 millions de livres sterling ensuite à être restauré, c'est presque un détail par rapport à tout ce qu'elle va connaître en 92. Vous avez déjà le divorce de Anne et de son mari, Mark Phillips. Vous avez ensuite les frasques de Fergie, sa deuxième belle-fille avec Andrew, qu'on retrouve quand même en 92, à se faire sucer l'orteil par son conseiller financier. Ça paraît dans un magazine français à l'époque. Et manque de peau, à ce moment-là, Sarah Ferguson est à Balmoral avec Elisabeth II et Philippe quand le journal est apporté sur la table du petit-déjeuner. Autant dire que Sarah n'a pas fini ses vacances à Balmoral. Et puis, vous avez la sortie de cette biographie incendiaire. Vraiment une catastrophe, peut-être la pire catastrophe depuis l'abdication d'Edouard VIII. Diana, Her True Story, d'Andrew Morton, où on apprend que Diana est malheureuse, qu'elle a tenté de se suicider, qu'elle a des troubles alimentaires. Et surtout, que Charles et Camilla, ce n'est certainement pas de l'histoire ancienne. En fait, 92 explose à la figure des Windsor et d'Elisabeth II. Et c'est le drame. Et d'ailleurs, en 93, il y aura ce qu'on appelle le Camilla Gate, c'est-à-dire des enregistrements audio qui sont diffusés dans la presse, où Charles et Camilla, se pensant tout seuls au téléphone et ne sachant pas qu'ils sont espionnés, Charles dira quand même à Camilla « Je rêve d'être ton tampax ». Vous imaginez que pour un futur roi, ça passe pas toujours.
C'est marrant quand même, parce qu'il y a quelque chose dans ce que vous nous racontez, d'à la fois très... En fait, on a l'impression de pénétrer les coulisses d'une monarchie très corsetée qui, en même temps, se fait sucer l'orteil et parle d'une façon parfois parfaitement vulgaire et triviale.
Ces gens sont
des
humains.
Êtres humains.
Ces gens sont humains et ces gens sont malheureux en mariage. Et là, ça explose.
Voilà.
Décembre 92, Charles et Diana se séparent. Le divorce ne sera qu'en 96, mais c'est néanmoins l'avenir de la monarchie qui est complètement anéanti, au moins sur sa symbolique de l'amour, de ce grand mariage de 81, le mariage du siècle qui finalement n'aura pas duré un siècle, est loin de là. Et puis ça va être comme ça, en 95, Diana donne son interview terrible à Panorama. Bref, on a des années horribles. Vous dites corseté et caché, j'aimerais bien, mais les tabloïdes ont tout diffusé dans le monde. Et c'est ça qui est effroyable dans ces drames-là, c'est que ce sont des drames publics.
Ce sont des drames publics. Et ce que je comprends aussi dans ce que vous nous dites, Thomas Pernet, et ce qui est d'autant plus surprenant dans cette prise de parole que l'on vient d'entendre de la reine Elisabeth, c'est que cette souveraine qui ne livrait jamais rien de personnel ne fait, à travers cette déclaration, que des allusions personnelles, en fait. C'est pas son pays. Bon, il y a le château de Windsor qui a été incendié, mais c'est sa famille. Donc, ce sont ses proches qui, à un moment donné, traversent des moments compliqués. Et la reine s'en explique d'une certaine façon auprès de ses sujets. Est-ce que c'est l'une des seules fois où elle a livré quelque chose d'elle-même?
Je pense que c'est le début, en tous les cas.
Oui.
Peut-être que c'est l'ouverture.
Oui.
Et le deuxième grand moment, c'est Diana en 97, la mort de Diana.
Oui.
C'est-à-dire, vous vous souvenez, le drame dans le monde, etc. Du temps pour réagir, mais néanmoins un discours de la reine. Qui salue la mémoire de sa belle-fille, la princesse du peuple.
Est-ce à dire que justement, ces années 90, cette décennie où la reine est moins populaire, c'est aussi quelque part la décennie d'une forme de résurrection de la reine qui comprend que pour rester et pour être populaire, il va falloir verser dans l'humain.
Certainement. C'est en tout cas, je pense, une décennie charnière où il y a forcément cet humain, ce rapprochement. On ne voyait pas les Britanniques se jeter sur elle et lui couper la tête. On n'en était pas là. Mais malgré tout, oui, il y a une prise de conscience. Et ces gens prennent conscience qu'ils doivent vivre dans le monde réel. Et le monde réel, c'est aussi le monde des sentiments.
Voilà, donc quelque part aussi, à un moment donné, on revient en lumière,
en majesté.
Je dirais, et en majesté. À la fin des années 90, on se retrouve dans un instant pour parler des années 2000. À tout de suite.
Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est une émission royale que l'on vous propose ce soir jusqu'à 21h. Nous revisitons et en une heure, alors là, 60 ans de règne, c'est vous dire le défi, car la reine Elisabeth II a tout vu de ce monde depuis la mort de son père, le roi George VI. Thomas Pernet, si la décennie 90, on vient de le dire d'ailleurs, a été très compliquée à vivre pour la reine en termes d'image et de popularité, les années 2000 célèbrent un retour en grâce. C'est comme si elle avait finalement tiré un enseignement des épreuves aussi qu'elle avait vécues et en termes de popularité et d'image auprès de ses sujets.
Oui. Alors c'est un lent retour en grâce, on ne se réveille pas au lendemain de la mort de Diana avec une popularité dingue, mais oui, son image est différente, adoucie. Elle a certainement réussi avec ses petits-enfants ce qu'elle n'a pas réussi avec ses enfants. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que la reine Elisabeth II a été une mère aimante, mais qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, que la communication, c'est un peu comme dans toutes les familles. Hein. Souvent, nos parents nous disent qu'avec les grands-parents, ce n'était pas totalement la même et qu'aujourd'hui, on parle plus. C'est peut-être plus facile aussi d'être grand-mère. Ça, les Britanniques et le monde entier le voient. Il y a aussi cette famille qui se retrouve, et notamment le mariage de Charles et Camilla, c'est-à-dire qu'elle accepte Camilla, celle par qui le scandale est arrivé, qui devient sa belle-fille officielle, Man, qui est aujourd'hui la duchesse de Cornouailles. Harry et William accueillent cette belle-mère avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et une forme de bonheur, malgré tout, de voir leur père heureux. Donc oui, il y a cette première décennie des années 2000, ce retour en grâce d'Elisabeth II dans le cœur de ses sujets.
Voilà, l'image de la monarchie, elle s'est pris un coup de frais, je dirais, de modernité et de joie aussi avec le mariage donc, de Kate et William. On est en 2011.
Tout à fait.
Voilà.
2 milliards de téléspectateurs, vous vous rendez compte ?
2 milliards ?
2 milliards, c'est incroyable.
Je ne rate jamais un événement pareil. Celle de Harry et Meghan plus récemment, même si ça se termine un peu en eau de boudin, on ne peut pas dire non plus que ça n'ait pas été un grand événement, je dirais, glamour pour la monarchie. On parle donc d'une reine que je dirais plus dans le coup, on l'a compris, surtout en 2012, quand elle rencontre un homme, un vrai.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Donc là, c'est Daniel Craig qui fait la connaissance de la reine d'Angleterre. Il vient la chercher dans son palais.
007 à Buckingham.
Attends, 007 à Buckingham. Il la fait monter dans son hélico. Écoutez l'hélico. Et là, direction le stade olympique de Londres pour la cérémonie d'ouverture des JO. Et là, écoutez bien, la reine saute en parachute. Bon, là, moi, je suis devant ma télé, Thomas Pernet, et je me dis, waouh, elle est trop forte, la reine.
Parce que vous y avez cru.
Bah, évidemment, j'y ai cru.
Et les 900 millions de téléspectateurs qui ont vécu cette cérémonie d'ouverture, ils ont cru aussi. Non, mais quel humour.
Alors, justement, c'est là que je voulais qu'on vienne, c'est qu'elle a de l'humour, la reine.
Dérision, d'autodérision, c'est incroyable.
Mais on a mis du temps à le savoir, quand même.
Mais peut-être qu'elle aussi.
Oui, c'est ça, peut-être que ça a été une révélation pour elle. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO en 2012. Il paraît que Charles, en voyant ça, on le dit après, est mort de rire, que ses petits-fils sont complètement fous en voyant leur grand-mère.
Et il semblerait
avec 007.
Que quand on lui a proposé, tout le monde se dit qu'elle n'acceptera jamais, elle n'a jamais joué son propre rôle. Et elle a accepté sous condition qu'elle ait ce qu'on appelle une line, une réplique. Et elle dit donc bonsoir à James Bond, mais elle ne voulait pas faire simplement de la figuration. Et c'est ça qui est super. C'est
moi,
ça qui est vraiment très, très
encore
drôle.
Davantage si j'avais été la reine
Elisabeth.
Elle aurait
pu être James Bond Girl dans le dernier qui vient
de
sortir.
Attends, complètement. Moi, j'aurais posé d'autres conditions. Mais ce qu'il y a d'assez formidable, je trouve, c'est effectivement de voir cette femme qui nous paraissait totalement inaccessible, malgré tout, hein, c'est une souveraine, être dans cette forme d'humanité, d'humour et d'autodérision. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore sur la reine Elisabeth II ?
Oui. Certainement beaucoup d'ailleurs, et on ne pourra pas en parler puisqu'on les ignore. Non, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup d'humour. C'est une femme qui a des goûts simples de par son éducation, qui a aimé surtout beaucoup l'équitation. Vous savez qu'elle monte toujours à 95 ans dans le domaine de Windsor. Alors, c'est plus un cheval, c'est plutôt un gros poney maintenant, mais elle monte toujours. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce symbole et dans cette vidéo, c'est aussi de voir qu'au-delà du personnage, c'est une marque, Elisabeth II. C'est-à-dire qu'en fait, on pense même que si Londres a eu les JO en 2012, c'est parce que le CIO était quand même bien impressionné d'être reçu à Buckingham et que par rapport à nous, à Paris, forcément, on n'a pas de Buckingham et on n'a pas de reine. Et ce symbole, il est aussi dans le business, c'est-à-dire que Windsor, c'est une marque qui a des études très sérieuses qui disent, je reparle encore de la Chine, que si un service ou un produit est estampillé Windsor, Buckingham, on ne peut pas estampiller un produit Elisabeth II, il se vend trois fois plus. Et là, on est dans cette force de la marque Windsor, c'est-à-dire qu'Elisabeth II est un symbole, elle est une marque, elle est une femme qui a certes de l'humour, mais malgré tout, c'est du soft power.
Et ces chapeaux concourent à la marque. Et je dirais que la silhouette Elisabeth II, c'est comme la silhouette de Karl Lagerfeld. C'est-à-dire qu'on ne fait que la reconnaître.
C'est vrai. Alors, elle s'est considérablement assagie depuis les années 2000, pour le meilleur peut-être, et pas pour le pire quand on voit certaines créations des années 90. Aujourd'hui, c'est une forme à moitié cloche canotier. C'est une petite mamie aussi, hein. Pardon, excusez-moi de dire ça, c'est peut-être un crime de lèse-majesté. Donc maintenant, ses chapeaux lui donnent cet air d'éternelle jeunesse, avec des fleurs, des plumes, des nœuds. Et on adore, on adorait les détester, et maintenant on adore juste les adorer.
Allez, dans un instant, on se retrouve avec vous, Thomas Pernet. On va prendre des nouvelles de la reine d'Angleterre, depuis notamment le décès du prince Philippe. À tout de suite.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Comme ça doit être vertigineux de célébrer 60 ans de sa vie, alors quand on a celle d'une souveraine, vous imaginez. Elisabeth II a eu un destin incroyable, on le voit ce soir. C'est dire si cette inamovible petite bonne femme aux cheveux blancs a tout vu de notre monde et de son histoire. Thomas Pernette, si on fait un bilan, on se le disait en début d'émission, en fait, elle n'a pas bougé, elle les a tous vus passer. Elle est toujours là. Est-ce qu'on a une petite idée, comme ça, un petit bilan en chiffres de ce qu'elle a rencontré ?
Bien sûr, les compteurs tournent et tournent toujours, parce que là, on parle des 60 ans de règne. On est à 69 ans, bientôt 70 ans l'année prochaine. 14 premiers ministres, c'est ce qu'on dit, 14 premiers ministres, mais si on compte seulement les premiers ministres du Royaume-Uni. Mais comme elle a été reine de 32 États, aujourd'hui 16, on pense qu'elle a eu en fait 170 premiers ministres. Pour les présidents américains, elle a rencontré 13 des 14 derniers présidents américains.
Le seul c'est qu'elle Johnson, a rencontré, c'est ça
Johnson. Mais ouais. Ils se sont eu au téléphone. Pour les papes, le premier pape qu'elle rencontre, c'est en 1951, c'est quand même Pie XII. Et puis si on est du côté de la France, cocorico, elle a connu tous les présidents de la 5e République, depuis De Gaulle, mais même au-delà de la 4e République, je ne sais pas si tout le monde se souvient, et certainement pas les plus jeunes, de René Coty et Vincent Auriol. Elisabeth II les a connus, et les a bien connus.
Et nous, on dirait ça de nous, on se dirait, on se prend un coup de vieux sur la cafetière, mais Elisabeth II, elle est toujours là et elle est toujours pimpante. Son pilier depuis toujours, c'est le prince Philippe. Il est décédé le 9 avril dernier. Il avait 99 ans, un moment d'autant plus cruel qu'on a assisté en plus aux obsèques du prince Philippe en temps de Covid, que l'on a vu cette reine, alors je dirais cette petite reine éplorée seule face au cercueil de son mari. Est-ce que ça, on peut dire aussi que ça a été un coup très très dur, un drame dans un âge déjà très avancé de la souveraine?
Oui, bien sûr, elle a perdu l'homme de sa vie, le pilier du règne, un homme qui a toujours été à ses côtés, on a toujours dit deux pas derrière, mais vraiment à ses côtés, malgré tout, qui avait sa propre personnalité. Après, malgré la douleur, malgré la peine, c'est quelqu'un qui, une fois de plus, est retourné. Ah oui. Au travail, faire le job, pardon de m'exprimer ainsi, dès le début, dès 15 jours après les obsèques du prince Philippe, et c'est aussi ce qu'il aurait souhaité lui.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'elle, dans une vie normale, vous savez, on se prend un vrai coup de vieux et un coup au moral aussi quand on perd à un âge avancé les gens qu'on aime. C'est quelque chose qu'on n'a pas remarqué chez Elisabeth II ?
Officiellement, non. Alors, il y a eu un très beau film qui a été diffusé il y a quelques jours sur la BBC en hommage au prince Philippe, où la reine ne parle pas puisqu'une fois de plus, elle ne donne jamais d'interview, mais où ses enfants et petits-enfants ont parlé. Oui, bien sûr, on sent que malgré tout, cette présence... Alors, c'est une présence qui était diminuée quand même puisque le prince Philippe avait pris sa retraite, qu'elle avait aussi une vie officielle et elle devait travailler seule, si je puis me permettre. Oui, mais bien sûr que ça a été une perte très dure et une perte intime. Néanmoins, là, cette rentrée qui s'annonce, la reine Elisabeth II, maintenant que le Covid est passé, elle a une de ses rentrées, mais encore plus chargée que 12 présidents, j'exagère un peu, mais de certains PDG du CAC 40. Oui, elle va inaugurer, il y a la COP26 à Glasgow début novembre, il va y avoir tous les chefs d'État. Alors, elle ne voyage plus à l'étranger, elle reste au Royaume-Uni, mais néanmoins, elle est toujours en fonction. On n'est pas du tout dans cette espèce de fantasme d'une régence va s'installer avec le prince Charles et puis elle va rester tranquillement à Windsor ou à Balmoral. Dans tous les cas, si on est là-dedans, elle, je ne pense pas qu'elle soit d'accord.
L'année prochaine, ce sera le jubilé de platine. 96 ans pour la reine, dont 70 de règne. Est-ce que vous pensez qu'elle souhaitera le célébrer, Thomas Pernette ?
Oui, alors c'est en plus... aucun souverain n'a célébré son jubilé de platine, c'est-à-dire que
elle aura battu tous les records.
Ah, elle l'a déjà battu depuis longtemps, puisque la reine Victoria a fait 63 ans de règne, elle en est déjà 69 ans, donc battue haut la main. Alors il y a peut-être quelques souverains et pharaons égyptiens, il y a 4000 ans, qui auraient fait plus, mais c'est pas facile de vérifier. elle est quand même, elle a ce record, c'est une record woman. Oui, bien sûr, les célébrations sont déjà annoncées, ce sera en juin de l'année prochaine, juin 2022. Alors, il y aura le programme classique, la messe d'action de grâce à Saint-Paul, la parade, le défilé aérien. Et puis, on nous annonce, alors cette fois-ci, pas une parade fluviale, mais une grande parade de plus de 5000 participants. Et là, motus et bouche cousue. Je ne sais pas si James Bond, lui, a les
vous
détails de l'opération.
Vous viendrez nous en parler.
Avec grand plaisir.
Bon, alors, parlez-nous de ce livre. Elisabeth II, les chapeaux de la couronne. On voit Elisabeth II, d'ailleurs, jeune au début, à travers une illustration de Jason Reich. Elisabeth II, jeune. Et ensuite, on la voit vieillir avec ses chapeaux. Voilà, vous nous racontez un règne en chapeau.
Tout à fait. On a voulu, avec l'éditeur, raconter autrement le règne à travers ses chapeaux, qui sont, bien sûr, aujourd'hui... complètement partie intégrante du personnage, mais aussi du règne. Donc raconter aussi bien les coulisses de Buckingham, rendre hommage à ces modistes. Les modistes, c'était ces femmes qui faisaient les chapeaux. Mmh, vous savez, dans les années 40 ou 50, toutes les femmes portaient les chapeaux. Bien aujourd'hui, il n'y a plus qu'Elisabeth II. Ouais. Et puis, certains d'entre eux ont été, on va dire, les témoins de grands événements. D'autres ont même été la cible de critiques, voire ont été les personnages principaux de drames eux-mêmes. On pense au chapeau anti-Brexit. En 2017, elle arrive avec un chapeau pour ouvrir le Parlement bleu avec des Marguerite Jaune, tout le monde se dit elle est anti-Brexit. Est-ce que oui ou non, la reine a voulu donner un message politique? Il faut acheter le livre pour avoir la réponse.
Elle préfère les chapeaux à la couronne, pour quelle raison? La couronne, elle pèse combien?
Plus de 3 kilos.
Impossible. Elle n'est pas obligée de la porter tout le temps, d'ailleurs.
Non, d'ailleurs, la couronne n'est portée que pour l'ouverture du Parlement, pour des grands moments comme ça. Sinon, il y a quand même les diadèmes. Je vous conseille le diadème, c'est beaucoup plus léger, Flavie. Et ça brille.
Et elle porte ses diadèmes à des occasions particulières, obligatoires?
Oui, alors le chapeau se porte toujours à l'extérieur, en journée, même quand on est dans les jardins de Buckingham pour une garden party. Après 18h, on peut l'enlever. Le diadème, c'est pour le soir, je vous le dis. Si vous en avez un chez vous, le banquier d'État, le dîner officiel, vous mettez votre diadème.
D'accord.
Et Elisabeth II, en vacances, préfère quand même le foulard, surtout pour monter à cheval. C'est quand même plus sympa de se nouer un petit foulard. Parce que même si le chapeau, tout est fait pour pas qu'il s'envole, et très peu d'entre eux se sont envolés, c'est quand même une partie de l'uniforme royal. Et le week-end ou à la campagne, on n'est plus dans le job, on est soi-même.
Merci pour ces conseils de mode. Thomas Pernet, Elisabeth II, Les chapeaux de la couronne. C'est votre livre qui vient de sortir et qui est génial aux éditions EPA. Merci à vous.
Merci.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.